Pour cela, nous sommes vos ennemis. Nous sommes contre vos idées, contre vos pensées, vos obscénités, votre chrétienté, votre violence. Nous refusons toute idée d'une vie qui serait fatalement réduite au minimum vital.
Un mot trop, et c'est un mot qui va en orange.
Les flics tabassent, sortent le P38 et les flics qui flinguent de glace.
Les flics, la police, les vices.
Et par des keufs se font paner, c'est connu, dans le Parisien t'as que des histoires comme as.
La route du guet, mec, les flics aussi.
Moi du rouge, aussi rouge que vos bavures.
J'ai mal au cœur quand ta frère meurt. Pour eux, un accident de travail, à t'en faire peur de sortir sans voir quoi.
Bonjour à tous et à toutes.
Bonjour.
Bienvenue sur Radio Dio. On est du coup l'émission numéro 0. L'émission numéro 0, c'est un jeudi sur deux, le temps de midi sur Radio Dio. Peut-être vous nous écoutez à 5h parce que l'émission est aussi rediffusée à 5h et elle passe en direct à midi. Le numéro 0, c'est... un média participatif, en gros, c'est un site internet où tu peux publier tes infos et comme ça les faire tourner et tout. C'est aussi une version papier de toutes ces infos, là qui sont publiées sur internet, qui sort de temps en temps gratuitement dans pas mal d'endroits sur Saint-Étienne, et une émission de radio, du coup, sur Radio Dio. Aujourd'hui, l'émission d'aujourd'hui est sur la psychiatrie. Erwan, tu veux peut-être t'enchaîner.
Alors bonjour, oui, alors aujourd'hui, donc pour cette émission qui, on vous le rappelle, comme ça au passage, sera rediffusée aujourd'hui à 17h, eh bien aujourd'hui, une émission un peu consacrée à des rencontres qui vont se passer les samedis 10 et dimanche 11 octobre dans un squat qui s'appelle l'immeuble occupé du 10 avenue d'Enfer Rochereau. Et c'est les rencontres autour de la folie, de la psychiatrie et des alternatives. Et une heure aujourd'hui, on va essayer d'aborder ces questions, de présenter les rencontres. Et on a demandé à Lionel de venir en parler aussi avec nous. Donc bonjour Lionel.
Bonjour.
Alors au programme un peu de ces rencontres, le samedi 10 et dimanche 11, c'est des rencontres qui vont commencer à 16h, donc pour les deux jours. Et c'est des rencontres qui vont tourner autour de discussions et puis des projections de documentaires, dont comme documentaire Histoire de la folie, Histoire autour de la folie, donc qui est en deux volets. Donc la première partie sera diffusée le samedi 10 octobre et le deuxième volet le dimanche 11 octobre. Et puis, sur l'affiche, par exemple, il y a des thèmes qu'on pourra aborder lors de ces discussions. C'est, par exemple, comme la maladie mentale, la souffrance psychique, la folie, c'est quoi ? Ou bien, alors, les réflexions autour des alternatives possibles. Il y aura à bouffer aussi, hein, donc ce sera possible de manger, ce sera plutôt le soir. Et puis, il y aura des projections de films également les samedis soir et dimanche soir. C'est prévu à 21h30, dont comme film National 7, un film qui date de 2000. Et puis, pour le dimanche soir, c'est à voir selon les envies et selon les films disponibles disponible, parce qu'il bon, y aura une quantité de films, un certain nombre de films qui seront là, qu'on pourra regarder, puis on verra, on en discutera. Quoi. Bon, bref.
Je veux juste rappeler que ces rencontres, donc c'est samedi, dimanche prochain, commencent à 16h, en fait, les deux jours. Voilà.
Dès 16h.
Voilà. 16h. Mmh.
Yeah, alors du coup, on t'a amené dans le studio pour faire une émission spéciale sur ces rencontres parce que le thème nous touchait aussi. Et une des premières questions qui peut venir comme ça, c'est un petit peu pourquoi toi, t'avais envie d'aborder ces thèmes comme ça et sous cette forme-là. Mais voilà, pourquoi t'avais envie de faire des rencontres autour de la psychiatrie?
Bah alors, en fait, c'est lié à plusieurs choses, évidemment. Elle se déroule à Saint-Étienne parce qu'il y a déjà eu des rencontres qui ont eu lieu à Chambéry. Il y a eu une projection au printemps et puis il y a quelques semaines, il y a eu aussi une sorte d'après-midi soirée où un peu sur le même modèle où on avait projeté des films et eu des discussions qui étaient vraiment très intéressantes. Voilà. Donc c'est une sorte de continuité, en fait. Si ces rencontres-là, elles peuvent se diffuser, se, entre guillemets, reproduire dans d'autres endroits, d'autres villes, etc. C'est un petit peu ça l'idée de la dynamique. À un moment donné, au début, c'est un peu une pierre qui est jetée à l'eau pour voir ce que ça va donner, ce que les gens ont envie de parler de cette question de la psychiatrie, de la folie, de choses comme ça qui sont habituellement réservées à des élites scientifiques, médicales, réservées au domaine de l'hôpital, des thérapeutes, etc. Et l'idée, c'est de se réapproprier la parole, l'écoute, l'échange autour de ces questions-là qui nous concernent tous, toutes, bien au-delà de la question de l'hôpital. C'était aussi ça, hein, l'idée de casser les murs des asiles il y a 40 ans. Aujourd'hui, on n'en entend plus parler, on en parle que de manière médiatique et sensationnelle et spectaculaire, hein, quand il se passe quelque chose d'intéressant à manger pour les médias, hein. On parle de meurtres commis par des récidivistes fous alliés, très dangereux, etc. Et l'idée, c'est justement de dépasser cette question-là qui est réservée aux spécialistes et de se réapproprier la parole et l'échange, d'où l'idée de rencontre et de rencontre où on a décidé volontairement de ne pas inviter de spécialistes ou de ne pas fonctionner de manière conférencière. Non pas que ça soit forcément mauvais, mais c'est commun. C'est en général comme ça que ça fonctionne. Et vu que le but, c'est l'échange, la parole, l'écoute, ça ne peut pas se faire en écoutant un conférencier. Donc l'idée, c'est vraiment parler avec tout le monde, écouter tout le monde. C'est ça, autour de cette thématique-là.
Les documentaires Histoire de la folie, on peut éventuellement vite fait les présenter. C'est quoi l'intérêt de ces documentaires-là?
Alors, c'est deux documentaires, hein, qui ont été faits dans les années 90. Un qui va traiter de la question de l'asile des fous, hein, des années 20 aux années 70, avant la petite révolution des aliénismes, hein, de l'antipsychiatrie, de la création du secteur, de la psychiatrie hors les murs. Et puis l'autre documentaire, donc le premier, ça sera le samedi, et puis le deuxième documentaire traite du même hôpital, hein, c'est sur le même, ça se passe dans le même hôpital,
Ville-Évrard, dans la région parisienne.
Voilà, et c'est intéressant parce que le deuxième volet traite de la question 10-15 ans dans les années 90, après la mise en place de la politique de secteur, pour faire un peu le point sur qu'est-ce qui a vraiment changé. Et ce qui est très intéressant dans ce documentaire, c'est qu'encore une fois, il rebondit sur la parole de tout le monde, des psychiatrisés, des spécialistes, des professionnels, des ouvriers de l'hôpital, des gens qui ont connu à l'intérieur, de manière proche ou carrément subi la question psychiatrique.
Tout à l'heure, on écoutera un petit extrait de plusieurs témoignages qui apparaissent à un moment donné dans ce documentaire. Bon, alors je sais pas, peut-être qu'on peut... parler de ce qui va suivre. On aura un autre extrait là, c'est ça?
Là tout de suite on va écouter un petit peu de musique, on va faire une petite pause musicale là pour s'aérer la bouche, et on va écouter un petit morceau de traumatisme qui est dans la thématique. Le morceau il s'appelle Exit Mental, et puis après on reviendra ensemble et on s'écoutera un petit extrait d'une conférence au Salon de l'Autre Livre de Patrick Coupchou qui parlait des thématiques de psychiatrie et maladie mentale, etc., etc. Du coup voilà, tout de suite on écoute Traumatisme.
Des traumatismes avec Exil Mental, et on retourne avec les camarades qui nous parlent de la journée antipsy.
Yeah. Tout de suite, on va s'écouter du coup un extrait d'une conférence de Patrick Coupchou à la Bourse du Travail de Saint-Étienne qui était passée dans le cadre du Salon de l'Autre Livre l'année dernière, en octobre 2008. C'est du coup l'occasion quand même d'annoncer le prochain Salon de l'Autre Livre qui va se passer le 23, 24, 25 octobre à la Bourse du Travail toujours, organisé par les syndicats CNT de la Loire. Voilà, c'est trois jours de fêtes, conférences, blabla et beuverie un peu dans tous les sens. Et cette année, sur la thématique de la guerre d'Espagne à l'autogestion. Et voilà, du coup, il y a pas mal de conférences, notamment le samedi 24 et le dimanche 25. Sur ces thématiques-là, il y a un programme qui tourne. N'hésitez pas à vous y référer ou à le chercher. Yo, yo, yo. Alors, pour revenir à ce dont on parlait, parce que du coup, on est sur une émission spéciale à psychiatrie. Extrait d'une conférence de Patrick Coupchou. Patrick Coupchou, c'est qui? C'est un journaliste qui collabore notamment au Monde diplomatique, qui a écrit pas mal de bouquins. Qui collabore avec le Monde diplomatique. Quoi. Et il a écrit pas mal de bouquins sur la folie, notamment Un monde de fous, comment la société maltraite ses fous. Il a écrit un truc sur l'autisme, je me souviens plus comment ça s'appelle. Et un autre truc qui s'appelle Enquête sur la souffrance psychique en France. On n'était pas toujours d'accord sur le fait de passer ou pas cet extrait. Moi, je trouvais ça cool parce que ça va être un petit moment de contenu dans l'émission, notamment parce qu'il aborde la thématique de... En gros, l'extrait qu'on a choisi, il vous parle un petit peu d'un état actuel de la santé mentale, de la folie, de la psychiatrie, et il essaye de mettre en lumière un petit peu le glissement qu'il y a de psychiatrie vers santé mentale. Voilà, du coup, on vous laisse avec Coupe-Chou, ça dure un petit moment et on réagira après.
Aujourd'hui, le secteur, on fait des territoires de santé, c'est ça ? Des territoires de santé. Donc, on va pas rapprocher les équipes, mais on va les éloigner. Bon. On va mettre une gestion totalement, dans les hôpitaux en particulier, totalement bureaucratique, basée sur les coûts, etc., qui sont en complète contradiction avec ce qu'est la psychiatrie. Mais sur le fond, ce qui est remis en cause, c'est quoi ? C'est la vision de la folie. Comment on peut caractériser, parce que la vision de la folie qui consiste à dire le fou est un homme et nous on est là pour faire en sorte qu'il vive parmi les hommes, c'est totalement abandonné. On n'en est plus là. Le fou, c'est un malade. C'est quelqu'un qui est malade du cerveau, des gènes ou du système nerveux. C'est la biopsychiatrie dominante et triomphante. Donc eux, c'est les industries pharmaceutiques, c'est tout ça. Si vous considérez l'être humain uniquement comme un patrimoine génétique ou comme un système nerveux, ben c'est pas la peine de s'embêter à le soigner comme on le faisait avant, à le considérer comme un sujet, etc. C'est pas la peine. Il suffit de lui donner des médicaments. Il suffit d'attendre que la science trouve le chromosome ou le gène de la schizophrénie, et puis ensuite on le soignera comme on soigne une grippe. J'exagère à peine. C'est exactement ça. Le deuxième aspect de la vision de la folie aujourd'hui, qui ne se dit pas, c'est que la folie, on doit la gérer. C'est plus une façon d'être de l'homme dans la société, c'est un problème à gérer. Ça signifie quoi ? Ça signifie tout simplement qu'il faut qu'elle coûte le moins cher possible, et il faut qu'elle disparaisse, qu'elle soit neutralisée. C'est le terme qu'on employait tout à l'heure. Il faut qu'elle soit neutralisée. Neutralisée, je vais vous donner un exemple très, très simple. Quand j'ai fait l'enquête, je suis allé dans des foyers d'hébergement d'urgence de SDF, la moitié ou les trois quarts des gens étaient des malades mentaux, et dès le moment où ils étaient dans leur chambre à se balancer, à fumer, et qu'ils ne faisaient pas de bruit, tout le monde disait tout va bien. Si on peut appeler ça du soin, c'était un petit peu rapide, comme c'est loin d'être du soin. Après le mot d'abandon, il y a un deuxième mot que je voudrais employer concernant la folie, c'est le mot de négation. Parce que ça aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, il y a encore 20 ou 30 ans, vous aviez des Foucault, vous aviez des Deleuze, vous aviez plein de gens comme ça, qui écrivaient, qui réfléchissaient, qui pensaient sur la folie. Vous les connaissez maintenant, vous, les gens qui pensent là-dessus ? Il n'y en a plus ? Il n'y en a plus ? Dans le discours politique, je ne dis pas que la folie n'existe pas, je vais y venir, mais dans le discours politique, est-ce que la folie existe encore ? Mais bien sûr que non. Dans le discours médiatique, est-ce que la folie existe encore ? Mais bien sûr que non. La folie a disparu. Elle a disparu. Sauf dans un cas, c'est la dangerosité. Mais ça, c'est le contexte sécuritaire fou. D'ailleurs, le monde de fous, c'est pas le monde des fous, c'est le monde normal. Mais c'est le contexte sécuritaire fou dans lequel on vit, qui fait qu'à chaque fois qu'on parle de la folie dans les grands médias, ou qu'un homme politique parle de la folie, c'est uniquement, mais uniquement, pour parler de sa dangerosité. Mais en dehors de ça, la folie n'existe plus. Elle n'existe plus parce qu'on considère, pour deux raisons je pense. La première, c'est qu'on considère, c'est la conception même de la santé qui a changé. La conception néolibérale s'est imposée. C'est-à-dire que vous êtes aujourd'hui malade, vous êtes un citoyen, un individu, seul, responsable de ses actes, et vous devez passer une alliance thérapeutique, c'est comme ça qu'on dit, avec le médecin, et vous êtes un acteur de votre propre thérapie. C'est ça qui existe aujourd'hui. Les textes de l'OMS, tout ça, c'est très clair. On demande la même chose aux schizophrènes, figurez-vous. On demande la même chose aux schizophrènes. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit des gens qui arrivent, et la semaine dernière, j'étais à Lille, en Bretagne, avec des assistantes sociales qui m'en ont parlé aussi. Vous arrivez délirant à l'hôpital. Dès que vous délirez un peu moins, on vous dit « Alors monsieur, quel est votre projet de sortie ? Quel est votre projet individuel ?» Et on va mettre un projet, mais on rigole, mais c'est comme ça, c'est absurde, c'est hallucinant. Et ça va même plus loin sur l'individualisation, vous voyez ? Ça va même plus loin. Moi, j'ai rencontré des experts auprès des tribunaux qui vous expliquent que parfois, on condamne un malade mental qui a fait un délit, pas simplement parce qu'il a fait un délit, mais parce qu'il n'a pas pris son médicament, son traitement, et qu'en conséquence, il est responsable du fait qu'il n'ait pas pris le traitement, et que donc il est responsable du délit. Quand on sait que la schizophrénie ou la psychose, c'est, la plupart du temps, c'est dans le déni de la pathologie, on se dit ces gens ne connaissent rien à la maladie mentale, ni à sa souffrance, ni à ce qu'elle est, ni rien, et que c'est une façon de la neutraliser. C'est une façon de la neutraliser. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui me semble hyper important, mais vraiment très, très important, qui explique la négation de la folie, c'est que le système dans lequel on vit aujourd'hui, il est confronté à un problème nouveau depuis, mettons, 10-15 ans, une quinzaine d'années, à un problème nouveau, massif, très, très, très difficile, qui est ce qu'on appelle cette souffrance psychique, dont on parle beaucoup, ou souffrance psychosociale. Pour aller très vite, on a, en 30 ans, fait exploser toutes les solidarités, tous les collectifs dans le travail, partout, et on se trouve avec des gens qui sont isolés, face à des machines qui les dépassent, et qui finissent au CMP, chez le médecin de médecine générale, angoissé, déprimé, etc., ou carrément même en psychiatrie. Et tous les psychiatres, tous les gens qui travaillent dans le secteur disent, mais sur 10 personnes que je reçois, il y en a 8 comme ça. Pourquoi je dis que le système est préoccupé par ça? Tout simplement parce que ça coûte cher. Et vous savez qu'eux, ils ne connaissent que ce langage. Ça coûte cher. Ça coûte des jours entiers d'arrêt de travail, etc. Et puis, ça peut être risqué pour l'équipe du système, pour sa reproduction. Donc, qu'est-ce qu'on fait depuis une vingtaine d'années? On va substituer la psychiatrie à un autre modèle qui est le modèle de la santé mentale. Et vous avez des gens qui essayent de théoriser ça en disant c'est le nouveau paradigme de la psychiatrie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que le psychiatre puisse s'occuper de la mère de famille déprimée, c'est-à-dire de l'homme ordinaire ou de la femme ordinaire, il faut qu'on lui retire le psychotique. Qu'est-ce qui se passe? D'une part, pour faire ça, il faut que la folie disparaisse. D'autre part, il faut aussi qu'il y ait des choix politiques. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré par exemple un type qui s'appelle Philippe Cléry-Melun, qui était l'un des auteurs de l'un des rapports sur la psychiatrie au ministère de la Santé, qui est un businessman cynique, qui a qui fait de l'argent avec la psychiatrie, qui a des cliniques privées dans la région parisienne et autres. Qu'est-ce que dit ce type? Il dit, les pouvoirs publics, ils pourront pas s'occuper à la fois de la psychose et de monsieur tout le monde qui a des problèmes. Il faudra faire un choix. Et le choix, c'est monsieur tout le monde. Pour des raisons politiques évidentes, évidemment. Puisqu'à la limite, le psychotique, on va s'en occuper autrement. Donc vous voyez, il y a une espèce de glissement qui a d'ailleurs été symbolisé par le titre d'un rapport qui avait été fait à M. Kouchner, à l'époque où il était socialiste, et ministre de la Santé, de Jospin. Et ce rapport avait été signé par deux psychiatres, dont l'un issu de la mouvance antipsychiatrique, c'est quand même assez rigolo, Jean-Luc Roland, qui est dans le Nord, et l'autre, Éric Piel. Eh bien, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, le titre du truc, c'était « De la psychiatrie à la santé mentale ». C'est-à-dire qu'en gros, la psychiatrie de papa, donc de la psychose, il faut qu'on l'écarte pour faire de la santé mentale. Alors, c'est une question complexe, parce que ça ne veut pas dire que le psychiatre, quand il est dans son cabinet, il va trier les gens en fonction de ce qu'ils sont ou de ce qu'ils ne sont pas. Mais sauf que le système demande à la psychiatrie de faire ça. Et que le système est en train, depuis quelques années déjà, de psychiatriser, voire on peut dire de médicaliser tout ce que sont les rapports sociaux. Je vous donne un exemple, et c'est un double avantage, mais je vous donne un exemple. Le chômeur, il n'est pas chômeur de longue durée parce qu'on a vidé sa région de tous les emplois, parce qu'on l'a viré avec un plan social, il est chômeur parce qu'il n'a pas été bon. C'est sa responsabilité. Et vous ne vous imaginez pas, d'ailleurs, De Clercq explique bien ça, y compris chez les SDF, l'intériorisation des problèmes sociaux qui est à l'œuvre avec l'individualisation de la société. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes chômeur, n'allez surtout pas adhérer à la CNT, à la CGT ou je ne sais pas où, pour changer le monde. C'est votre faute d'abord si vous êtes chômeur. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voir un psy, vous allez voir le médecin. Et qu'est-ce qu'il fait le médecin? Il vous donne des médicaments. Et qu'est-ce que font les industries pharmaceutiques? Eh bien, elles se frottent les mains, vous imaginez bien. Bon. Ça signifie qu'on est dans un processus de médicalisation, voire de psychiatrisation de toute la vie sociale et de tous les problèmes sociaux. Je vous donne un dernier exemple pour illustrer ça. Je suis en train de travailler là, je suis en train de l'écrire un bouquin sur justement ces questions-là, mais en particulier à l'intérieur de ces questions-là, la fameuse souffrance au travail dont on parle beaucoup. D'abord, ce que je veux vous dire, c'est absolument hallucinant. Hein. Dès que vous mettez le nez là-dedans, vous vous rendez compte que c'est tragique, massif, c'est quelque chose de terrifiant. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe sur cette affaire? On s'aperçoit qu'il y a quelque temps, les premiers suicides, avant, vous savez, les suicides, ça ne date pas d'aujourd'hui. Les gens qui travaillent dans ce domaine, ils vous disent, c'est comme ça a commencé d'arriver des gens traumatisés à la fin des années 90. Hein, c'est quand même, ça date pas tout à fait d'aujourd'hui. Mais avant qu'ils soient obligés d'en parler parce qu'il y avait des suicides chez Renault ou ailleurs, c'était le déni. Tu disais, bon, c'est pas le travail, le mec il n'était pas bien, il avait problème avec sa femme et sa copine, et ben, il s'est pendu. Et puis là, c'est tellement massif qu'ils sont obligés de le reconnaître. Donc la position du déni est en train de changer. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils médicalisent. Il y a des gens qui ont monté des consultations, ils ont eu raison d'ailleurs, je ne les critique pas, mais qui ont monté des consultations spécialisées. Moi, j'ai assisté à des consultations à Créteil, à l'hôpital, spécialisées dans le travail. Et les gens, quand ils ne vont pas bien, ils vont voir ces médecins ou ces psychanalystes. Eh bien, on est en train de médicaliser ça. Et l'autre jour, j'ai participé à un colloque où il y avait un type qui disait « On a mal au travail comme on a mal à la tête ou à la jambe. » Ben voyons, bien sûr. Donc, on est en train d'évacuer le fait que depuis 15 ans, on a intensifié le travail, que depuis 15 ans, on a isolé les gens dans le travail, que depuis 15 ans, on a martyrisé les gens dans le travail, et que c'est ça la cause, l'organisation du travail, le sens du travail, le fait qu'on a financiarisé tout ça, c'est surtout ne pas en parler. Si monsieur machin a du mal, bon, c'est vrai que le contexte n'est pas facile, mais allez voir le médecin, et c'est le médecin qui va vous arranger l'affaire. Donc vous voyez tous les enjeux politiques qui sont autour de la folie. Cela dit, je terminerai sur deux choses qu'on a peut-être le temps de discuter. C'est un peu long, hein. Je termine. Deux choses, simplement. Cela dit, deux choses. La première, c'est que même si on la nie, la folie, elle existe quand même. Hein, la schizophrénie, il y a toujours. Ils ne sont plus à l'abri, entre guillemets, dans les asiles. Dans le temps, il y avait une crise. Après la crise, on était toujours dans la chronicité, comme disent les psychiatres, c'est-à-dire dans la maladie mentale. On n'arrête pas avec la maladie mentale. Tout ça, ça se réglait à l'intérieur des murs. Là, les murs, ils sont pour eux. Alors, comment on va faire pour gérer, et j'emploie le terme à dessein, pour gérer la folie ? Ben, premièrement, on va faire face à la crise. Faire face à la crise, c'est, et ça, c'est des politiques qui sont déjà exprimées depuis le début des années 90, on va renforcer le rôle de l'hôpital et des urgences. Y compris, si c'est possible, avec l'aide des médecins et médecine libérale, hein, le fameux Claire Imelin dont je parlais tout à l'heure, il dit ça. Donc, urgence. Vous êtes en crise, vous délirez, boum, allez hop, 15 jours, pas trop long, parce qu'on calcule, hein, on calcule le prix de journée et tout ça. 15 jours, médicaments, vous allez mieux, vous êtes KO, allez dehors. Et puis la chronicité, eh ben on va balancer ça au social, hein, et ça donne des résultats épouvantables. Et on se prend la tête pour savoir comment faire le lien entre le social et le sanitaire. On va même plus loin que ça, on met des réseaux en place, des réseaux avec les flics, avec les psychiatres, avec les médecins. Tout ça, c'est du contrôle social au bout du compte, hein, c'est pas de la psychiatrie, c'est du contrôle social. Dernier point, c'est juré, je termine. C'est qu'on s'aperçoit que quand on touche au malade mental, quand on touche au fou, on touche pas simplement au malade mental, on touche à l'individu, on touche au sujet. Et quand vous regardez derrière le malade mental, qu'est-ce qui se passe ? Mais il se passe qu'on est dans une société où l'individu est promu, où l'individu est clamé comme étant le centre de toutes les préoccupations des publicitaires et autres, mais que quand vous regardez la réalité, le sujet, il n'a jamais été autant malmené qu'il l'est aujourd'hui. Eh bien ça, la folie, elle nous le montre, vous voyez, et que le système qu'on veut nous faire mettre en place, qui est un système de lien entre les gens, qui est un lien marchand, qui est un lien contractuel, qui est un lien utile, on peut l'imposer à une partie de la population, on peut l'imposer en masquant, on peut l'imposer en travestissant, mais avec la folie, on peut pas. C'est-à-dire que le fou, lui, ne peut pas rentrer là-dedans. Il ne sait pas son truc. La folie, c'est le lieu du lien réel, comme je dis souvent. S'il n'y a pas de lien réel, c'est l'abandon. Donc quand il y a lien réel, eh bien c'est bien. Et quand il n'y en a pas, c'est l'abandon. Et c'est pour ça qu'on les abandonne.
Voilà, du coup, c'est un extrait d'une conférence de Patrick Coupchou en octobre dernier à la Bourse du Travail lors du salon de l'autre livre à Saint-Étienne. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus ? Je voulais déjà resituer que Patrick Coupchou... il a fait ça en tant que journaliste et que c'est tout ce savoir-là, c'est une enquête du coup qu'il a menée sur pas mal de temps, et un des débouchés de cette enquête du coup, c'est notamment son bouquin là, Une société de fous, je sais plus comment ça s'appelle,
Un monde de fous.
Un monde de fous. Et voilà, Valou. Et moi, je voulais revenir avec toi, Lionel, un petit peu sur ce qu'il dit. Est-ce que ça te parle là, ce truc qu'il développe? Ce glissement de la psychiatrie vers la santé mentale, La psychiatrie, elle mettrait de côté les psychotiques et pour s'occuper de monsieur et madame tout le monde qui vont de plus en plus pas bien, quoi.
Alors, il y a plein d'axes à retravailler, à rediscuter, mais bon, il y aura tout le week-end pour le faire. Cette idée du glissement, de la folie vers la santé mentale, c'est ni Coupchou, ni nous qui l'avons inventé. C'est pas une idée qu'on a inventée, ça a été créé de toutes pièces. Ça colle à une société libérale marchande.
Ah oui, c'est une décision politique, quoi.
Oui, c'est une vraie décision politique à un moment donné, puisque en ouvrant les murs, et puis avec l'apparition, il faut le dire, hein, des neuroleptiques, hein, dans les années 50-60, hein, et l'utilisation massive, hein, depuis 20-30 ans des neuroleptiques, hein, pour gérer la grande folie, on s'est rendu compte que très rapidement, les fous, les folles nous embêtaient plus la société de monsieur, madame, tout le monde, hein. Et donc il allait falloir investir d'autres champs, hein, et faire ce glissement-là pour pouvoir rentabiliser et puis donner une raison d'être à tous ces médecins psychiatres qui apparaissaient, et puis des médecins psychiatres et toutes les machines marchandes qui vont avec. Hein, c'est-à-dire que c'est les entreprises pharmaceutiques, hein, en premier lieu, hein, parce que c'est aujourd'hui les entreprises pharmaceutiques qui décident de la façon dont on diagnostique, dont on met des noms de maladies sur des comportements humains, ce qui permet ensuite de pouvoir leur délivrer un traitement médicamenteux. Donc c'est une manne financière énorme, et c'est vrai que si on se limitait qu'à la grande folie, ça serait pas très intéressant financièrement. Hein. Donc évidemment, ce glissement-là, il a été construit. Il vient de plusieurs idées. Hein. Il y a cette idée-là, hein, de la société marchande, de la marchandisation des rapports, hein, parce que le relationnel, ça se marchandise mal. Donc il fallait investir ce champ-là. Et puis ça correspond, à mon avis, à une façon de voir la société, c'est-à-dire la permissivité de la folie, du comportement qui est inadapté socialement, et puis mettre des mots sur des mots qui sont en dehors de mots de révolte et de révolution collective, et de tout rebaser sur l'individu. Ce que cite un Coupchou, hein, sur la question de « j'ai mal au travail », hein, c'est exactement ça qui se passe, en effet. Vu qu'aujourd'hui, il n'y a pas de parole autour de ça, il n'y a pas de parole collective, les colères et les révoltes légitimes sont étouffées, tout repasse dans le schéma individuel ou intrafamilial, et ça explose à cet endroit-là, ça explose plus collectivement dans la rue, et ça fait en diagnostiquant tout ça, plutôt que de le voir sur un point de vue politique et social, en diagnostiquant ça autour de l'individu, ça permet de remplir les cabinets médicaux et puis de remplir les pharmacies, hein. On est quand même en France, c'est une évidence que je dis, mais le plus grand consommateur au monde, hein, de psychotropes. Alors voilà, je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Je pense qu'on pourrait plus développer ce week-end, et puis voilà.
Et d'ailleurs, ce week-end, on pourra peut-être un peu plus parler, si on a envie, du démantèlement de la psychiatrie de secteur. Alors ça se passe en ce moment. On a peu d'infos là-dessus. On ne sait pas trop comment ça se passe. On ne sait pas en quoi ça consiste. On ne sait même pas éventuellement qu'est-ce que c'était la psychiatrie de secteur. On nous dit qu'elle disparaît, mais éventuellement, je sais pas, on ne sait pas ce que c'était. Et par exemple, alors on sait qu'il y a du personnel hospitalier qui réagit à ça, qui réagit pas qu'à la fin de la psychiatrie de secteur, mais qui réagit aussi au discours des politiciens qui enrobe tout ça. Est-ce que toi, dans le service où tu travailles, est-ce que tu constates des réactions ou...
Alors, oui, c'est vrai qu'on n'a pas précisé ça dans l'émission, mais à côté de ça, je collabore à l'enfermement et à l'administration médicamenteuse dans un centre hospitalier sectorisé en Savoie. Voilà, je suis donc infirmier. Moi, je décrirais la situation, en tout cas, dans l'hôpital où je travaille, au-delà même du service, qui est une situation complètement passive, où les seules revendications, par exemple syndicales, et de la plupart des salariés, se tournent autour de leurs questions individuelles de statut, de changement de statut, de conditions de travail, des revendications syndicales légitimes, mais qui ne se portent pas du tout autour de la question psychiatrique, autour de la question de l'humain, en dehors de leur individu salarié. On se consacre à ça dans le questionnement. C'est vrai qu'il y a eu un mouvement qui est né en France, qui s'appelle l'appel des 39, hein, contre la nuit sécuritaire, qui est apparu après le discours du 2 décembre à Antony, en région parisienne, de Nicolas Sarkozy, sur la réforme de la santé mentale, de l'institution de la politique de secteur, etc., qui... En deux mots, hein, c'est un discours... Il y a d'ailleurs, on peut aller sur le site qui s'appelle collectifpsychiatrie.fr, où on retrouve tous ces textes et tout ce qui est né de là. C'est quand même un site qui est fait par des professionnels, plutôt dédié aux professionnels. Hein. Il faut, encore une fois, le lien avec les psychiatrisés il n'est pas encore fait, on n'en est plus du tout là. C'est vrai qu'on... Et juste pour revenir, voilà. Donc il y a eu ce discours le 2 décembre 2008, où qui est apparu juste après un meurtre à Grenoble de la part d'une personne qui était psychiatrisée et puis qui s'est évadée du CHS de d'Isère, hein, à Saint-Égrève. Mmh. Et qui a blessé mortellement un étudiant. Voilà. Et donc il y a eu une réaction très forte. Il y a eu une réaction très très forte des politiques et notamment de Sarkozy en appelant à un grand renfermement, de nouvelles unités fermées, des bracelets GPS pour repérer les patients qui s'évaderaient. J'appuie sur le mot évasion, hein, puisque c'est le mot qui a été employé, hein, voilà, c'est intéressant. Et puis plus de surveillance, plus de caméras, plus d'unités pour malades difficiles. Enfin, on est dans un système, bon, c'est pas une surprise, hein, extrêmement sécuritaire, et la façon dont c'était intéressant, parce qu'on peut faire un parallèle avec le système social dans lequel on est, qui est direct, c'est-à-dire que cette application-là, cette volonté-là de réenfermer, de refermer, fermer encore plus et contrôler encore plus, c'est montrer à petite échelle sur la question psychiatrique, mais ça s'applique à la société en général. C'est vrai que là, c'est appuyé, donc il y a eu une levée de boucliers des professionnels et qui ont écrit cette fameuse, qui ont créé cet appel des 39 pour se positionner contre ce grand renfermement. Voilà. Et donc, c'est un peu ça la situation en France. On n'est pas à l'heure de la discussion du partage sur la question de la folie dans la société française. On n'en est pas du tout là. C'est une question oubliée, même par les professionnels. Pas par tous les professionnels, mais d'une manière globale.
Et toi, comment t'expliques un petit peu ce truc de... En fait, il y a eu quand même des moments... j'ai l'impression qu'on n'a pas été toujours dans ce vide un petit peu de critique parmi les travailleurs et travailleuses de la psychiatrie. Il y a eu des moments où il y avait quand même des critiques, des sortes de contre-théories au courant politique dominant de la psychiatrie qui était développé. Et comment t'expliques que là, actuellement, les gens, comme tu dis, ils en sont soit à contester juste tendance sécuritaire ou à contester juste là la transformation hyper écrasante de l'hôpital et qui les écrase en même temps.
Les aménagements institutionnels, en fait, les réaménagements institutionnels. Alors, comment je l'explique ? Il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a une réalité générationnelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a plusieurs générations qui ont porté le désaliénisme, le fait de casser les murs et d'ouvrir l'hôpital sur la société. Et ces personnes-là, qui étaient là il y a 30, 40 ans, 50 ans, soit sont à la retraite, soit sont fatiguées, soit sont plus dans ce secteur-là, soit sont ailleurs et font autre chose. Et il y a toute une nouvelle génération qui est née après la politique la fameuse politique de secteur. On pourra revenir rapidement, mais et toutes ces personnes-là ont été formées. On a tout refondé, hein, et la médecine psychiatrique et le métier d'infirmier en psychiatrie. Hein, maintenant, c'est un tronc commun entre guillemets somatique et psychiatrique pour les infirmiers et infirmières. Hein, et donc, il n'y a plus cette culture-là. Il y a eu un fossé. Il y a eu un fossé comme si ça avait toujours été comme ça. C'est vrai que les nouvelles arrivants professionnels ont l'impression que ce qu'ils voient là, c'est ce qui a toujours été. Comme si il n'y avait pas eu ce mouvement des aliénistes antipsychiatriques, de critiques puissantes et relativement révolutionnaires de vouloir briser les murs et briser les discriminations et les différences entre les fous et les gens normaux, en quelque sorte. Ça n'existe plus, vu qu'en effet, on est passé on est dans la culture de la médecine aujourd'hui, et la médecine, c'est la santé mentale, on parle plus de folie. Donc on soigne bien, est-ce qu'on soigne, est-ce qu'on soigne pas, on se pose même plus cette question. Il y a des traitements, il y a des diagnostics, et on les applique. Et je pense que la baisse de critiques et de révolte, elle est aussi liée à ça, au fait que la folie ne fait plus de bruit. Elle est éteinte, elle est peut-être moins enfermée, moins derrière les murs, donc on s'en satisfait, puisque les gens vont dans les hôpitaux de jour, dans les CMP, dans les structures
associatives,
extra-hospitalières. Hein. Mmh. Et donc, elle ne fait plus de bruit, c'est parce qu'elle est éteinte par les neuroleptiques. Et donc, évidemment, moins ça fait de bruit, moins on en parle. Et puis, ça prouve que ça marche, vu que les gens, finalement, ont un fonctionnement social normé, très adapté, des fois bien plus adapté que des gens qui prennent pas de neuroleptiques et qui sont pas classifiés malades mentaux, et eux sont suradaptés, dociles, soumis par la puissance des traitements chimiques, et donc ça fait moins de bruit. Et quand ça fait du bruit, on en parle, comme disait Coupe-Chou, comme je le disais tout à l'heure, au travers d'un événement spectaculaire, en général autour d'un meurtre et de choses comme ça, voilà.
Du coup, ça me donne envie, pour faire une petite transition, pour faire une petite pause musicale, de dire appel à tous et toutes à se taper la tête contre les murs, contre la folie. Et un bel exemple de ça, ça serait Les Suspendus, qu'on va écouter tout de suite.
Le médecin a dit qu'il était à atteint de mélancolie. Il a dit que c'était une maladie très grave, très rare, difficile à soigner. Quand on savait la reconnaître, mais la personne ne le savait. Quand on l'emmenait à l'hôpital, c'était trop tard. Tous les jours, il frottait sa pierre ponce à l'endroit du cœur. Tous les jours, il faisait sa plaie. Il creusait, il raclait ses os, il se perforait.
C'était Les Suspendus avec un morceau qui s'appelle Mort à l'hôpital. Et sans transition, eh bien, on va écouter maintenant une série de témoignages. Donc, c'est de l'audio, mais normalement, c'est en vidéo, puisque c'est un extrait du documentaire qui sera projeté les samedis 10 octobre à dimanche 11 octobre, là, à l'occasion des rencontres autour de la folie, de la psychiatrie et des alternatives. Et c'est des extraits donc de Histoire autour de la folie. Donc voilà, c'est une série de témoignages. On parlait justement de paroles qui s'éteint, qu'on n'entend plus. Eh bien là, on va écouter un peu.
Et tu te rappelles du premier hôpital où tu as été ?
Ah oui, 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 oui. Des brutes, des sauvages. J'avais 6 ans. J'ai fait le premier pavillon. Après, je suis monté plus haut. Et au deux, t'avais 14 ans, 15 ans, ils te faisaient travailler, ils te faisaient pousser les wagonnets, ils te faisaient travailler. On a raidi un camp de prisonniers. On était trop petits pour s'évader. Sans s'évader. Jamais on m'a rien dit. Laquelle maladie j'ai ? Des impulsions. Je veux sortir d'ici, et puis d'un seul coup, je ne veux plus. Parce que j'ai fait trop d'années là-dedans. J'ai fait 53 ans d'asile psychiatrique. C'est toute une vie, ça. J'ai fait évader des autres, mais pas moi. Je voulais rester dans l'enfer, moi. Les autres, ils ne voulaient pas rester, je les faisais évader. Non, non, il a été vu qu'en Allemagne, en dessous le train. C'était un Polonais. Il voulait rentrer chez lui. Lui, il a raconté l'histoire là-bas. Il a dit la France, ça se passe comme ça.
Tu peux travailler, toi, avec tous ces médicaments que tu as pris.
Moi, l'année dernière, j'ai travaillé.
Écoute, t'es dans la rue, il peut t'arriver un accident, tu n'en douterais pas.
Ben, t'es arrivé un accident déjà.
Tu vois, ça m'étonne pas.
Bah, c'est ça la vie. Hein.
C'est pas ça la vie, c'est la vie des hôpitaux qui fait ça. Écoute, quand j'étais dans le fourgon, dans la camionnette.
Toi, tu vois la vie de l'hôpital. Tu vois la vie de l'hôpital, c'est comme ça. On n'a pas le droit de me faire sortir, on n'a pas le droit de ceci, on n'a pas le droit de cela, d'accord? Parce que t'es ici, parce que t'as rien.
Oui.
Mais moi, j'ai envie de sortir.
Mais toi, ça fait pas 23 ans que t'es dans les hôpitaux, ça fait quelques années seulement que tu es. C'est normal, tu penses à sortir.
Mais c'est pas ça, je veux te dire.
Mais quand tu es à ma place, moi qui ai 23 ans d'hôpitaux, je pense pas à sortir. Hein. Je m'en fous pas mal, hein. Je suis habitué. C'est la vie quoi, la vie est toujours la même partout, la vie est quotidienne, hein. C'est la même partout. Toi bien sûr, tu as des débouchés quoi, tu penses à ces débouchés, mais moi c'est trop tard, j'y pense plus. Je pense plus aux débouchés, c'est une histoire ancienne.
Faut pas rester inactif, hein. C'est pas bien. Hein.
Pour toi d'accord, tu veux pas rester inactif, mais tu sais, il y a une emprise de l'hôpital qui te force à rester sur place. Ça te force à rester sur place, tu peux... Tu peux pas.
Il faut
aller à la maison chez ton père tous les dimanches. Et encore si ça peut aller, parce qu'il faut te réhabiliter à la société. Parce que c'est différent, les hôpitaux, c'est tout à fait différent, c'est le contraire l'un de l'autre. On n'a pas ce qu'ils ont les gens de la société.
Moi quand j'étais au travail au mois d'août, j'ai travaillé pendant un mois, je me levais tous les matins à 7h. Je suis sorti du pavillon, j'allais me prendre le bus, j'allais au travail.
Et tu crois que ça faisait bien?
J'étais mécanicien automobile, je travaillais dans la mécanique.
Oui, tu crois que ça faisait bien? Voilà. Ça t'a fatigué, c'est tout. Hein.
Ça m'a un peu aidé mentalement.
Ça peut aider mentalement. Non. Ce qu'il faut, c'est.
Je te dis ça.
Ce qu'il faut à toi, c'est.
Je te dis ça, c'est vrai.
Il faut vivre en société, à toi.
Mais parfois, il n'y a pas que ça qui compte. Il n'y a pas que l'hôpital qui compte.
Mais non, je te dis pas qu'il y a que l'hôpital qui compte. Pour certains, c'est leur maison, c'est leur vie. Il faut pas dépasser 3 mois, pour vivre dans un hôpital, il faut pas dépasser 3 mois, au plus tard 6 mois, autrement, d'abord le médecin ne laisse même plus sortir.
Il faut aimer la vie, il faut pas rester comme ça.
Écoute,
s'il y a des gens qui te conviennent pas,
mais écoute, c'est trop tard, tu penses à des choses qui sont dépassées, c'est trop tard.
Je te parle pas du passé, je te parle de ce moment-là, maintenant, là.
Non, mais écoute, quand tu parles, tu dis qu'il faut aimer la vie, d'accord, il faut aimer la vie, mais d'abord, est-ce que la vie est aimable, d'abord?
J'ai dépensé tant de force pour des poubelles en papier. J'ai laissé mourir mes motos dans un coin sombre de ma mémoire.
J'ai un fils qui fait la psychiatrie maintenant, qui est interne. Et ce qu'il me raconte, mais ça me semble terrifiant. Terrifiant. C'est-à-dire, c'est la seringue à l'arrivée. Quand quelqu'un est un peu agité, on commence par lui foutre du nosinant dans le cul, et puis après on parle. On parle de quoi dans cette relation de pouvoir déjà instaurée? C'est pas possible, tout est défiance.
Qu'est-ce que ça représente pour vous la souffrance de personnes atteintes de troubles psychiques aujourd'hui?
Ah là là, mais c'est un mot que je n'aime pas, la souffrance. Parce que on aurait toujours tendance à dire que la folie, c'est la souffrance. Or, ce n'est pas vrai. Je pense qu'une névrose d'angoisse, une névrose obsessionnelle connaît une souffrance parfois beaucoup plus grande qu'un psychotique qui délire. Je n'ai pas l'impression qu'on puisse étalonner ça en termes de souffrance. Je ne peux pas dire que d'être psychotique, c'est un état heureux. Là, il y a des moments très durs. Mais... si c'est pris dans une collectivité où ce potentiel de créativité que donne la psychose est reconnu et garanti par l'asile au sens large, pourquoi serait-il plus malheureux qu'un mec qui travaille chez Renault, ou qu'un type qui se paye des crises d'angoisse dans le métro, ou qui je sais pas quoi, ou qu'une bonne femme qui reste chez elle à garder ses mômes dans un HLM? Pourquoi? Ce terme de souffrance, pour moi, ne correspond strictement à rien. Vraiment.
Voilà, donc c'était une série d'extraits du documentaire Histoire de la folie.
Ouais. Bah là, il va falloir conclure, quoi.
Bah, on approche, on approche de 13h de l'émission.
Je sais pas trop comment conclure, moi. Parce qu'il n'y a pas vraiment de conclusion à apporter à tout ça. En tout cas, on peut peut-être réannoncer là ce qui va se passer samedi et dimanche.
Et puis on peut aussi dire qu'il y a un blog un peu un blogounet
tout neuf
et ouais. Propre et commercialisant en tout cas dans jusqu'à ce qu'il y en ait un moins commercialisant qui s'appelle La Nef des Fous, tout attaché, L-A-N-E-F des Fous, point over-blog.net. Et donc, c'est juste pour l'instant le moyen de communiquer au-delà des rencontres, avant les rencontres. Enfin, ça permettra aussi de publier des documents, des vidéos, des interrogations, et puis de dialoguer avec et de perpétuer cette parole en fait qu'on essaye d'initier ici en fait plutôt que de conclure. Moi, je dirais que c'est plutôt une introduction ce qu'on a fait là et voilà.
Ouais, du coup, moi, j'ai envie de vous inviter tous et toutes à venir du coup continuer. Ces brides qui ont été lancées et venir discuter que du coup ce week-end ça va être un moment de rencontre pour discuter autour d'une table mais aussi à côté et que du coup ben voilà, si vous êtes touché un petit peu par ces trucs, vous avez envie d'en parler ou que ou ça vous parle pas du tout mais que vous avez envie d'en savoir plus, et ben venez du coup samedi 10 et dimanche 11 à la maison ou l'immeuble occupé au-dessus de la gare, au 10 avenue d'Enfer Rochereau. Du coup, ça commence à partir de 16h le samedi, à partir de 16h le dimanche, avec à chaque fois des projections en début d'après-midi, et puis suivi d'une discussion. Et puis voilà, amenez vos critiques, vos bonnes idées, on en parlera. Et puis c'est à force de critiques et de trucs comme ça qu'on arrivera à peut-être quelque chose de cohérent par rapport à ça, quoi.
Éventuellement une petite précision, c'était juste pour dire que parfois les discussions peuvent être un peu compliquées ou chiantes quand on est 30 ou 40. Et c'était juste pour dire que l'espace dans cet immeuble est fait de telle manière que c'est possible de se répartir l'espace en plusieurs groupes si à un moment donné l'envie se manifeste de vouloir... parler plus facilement et éventuellement comploter, pourquoi pas, eh bien c'est possible, quoi. Voilà, c'était juste pour dire ça, que c'est assez grand pour pas se... pour discuter en petit groupe, quoi. Voilà.
Et ouais, moi j'avais envie de rajouter particulièrement sur la forme du truc, je sais pas trop comment dire, mais que encore une fois, faut pas vous attendre à une sorte de truc tout fait ou de discours tout préparé sur le truc là. Il y aura pas quelqu'un qui va parler qu'on pourra écouter pendant des heures et tout ça. Du coup, n'hésitez pas à préparer votre salive et si vous avez envie de cracher ou raconter vos expériences personnelles, eh ben amenez toute votre rage à et voilà, à venir partager avec les autres, quoi.
On peut dire aussi qu'il y aura une table de presse avec un certain nombre de brochures et disponibles et un DVD. Je sais pas si Lionel, tu veux en parler de ce DVD ou juste ce sera la surprise. Bon, très bien. Bon, bah, on approche de la fin. Donc ça, voilà, c'est les samedis 10 octobre et dimanche 11 octobre.
Ah, on peut annoncer quand même que samedi 10 octobre, voilà. Toujours dans cette faramineuse. Parce qu'il faut quand même dire qu'on est quand même, on participe quand même dans cette histoire d'immeubles occupés un petit peu, qu'on participe aussi un petit peu à cette organisation de trucs et qu'on quand même, on vend bien nos choses, quoi. Et que notamment, eh ben, le samedi 10 octobre, organisé encore par des potes et un petit peu nous aussi, eh ben, il y a un resto de soutien au collectif Papillon qui anime une émission sur Radio Dio les dimanches une fois par mois sur la thématique contre les prisons et l'enfermement. Et du coup, ils feront une petite bouffe pour ramener un petit peu de flouze pour leur collectif. Et petit restaurant végète à prix libre, c'est à partir de midi, du coup toujours à l'immeuble occupé au 10 avenue d'Enfer Rochereau, au-dessus de la gare.
Bon, ben on approche vraiment la 13h.
Et ben on peut se dire au revoir et à dans deux semaines, ou à ce week-end.
À ce week-end plutôt. On vous rappelle que cette émission sera rediffusée aujourd'hui même à 17h et que dans un futur plus ou moins proche et lointain, eh bien, toutes les émissions numéro 0 seront toutes réécoutables et téléchargeables sur le site du numéro 0 qui est le numéro 0 tout attaché et sans accent .l'autre.net. Voilou. Merci.
Merci.
Félicitations.
Vous pouvez aussi nous écrire à emissionradio@fastmail.net ou directement à la radio. On vous répondra. Salut.